bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent dans la deuxième partie de Dernier Cri. Nous allons parler de théâtre avec la pièce de Georges Büchner, La mort de Danton. J'avais eu le plaisir de recevoir François Orsogne, le metteur en scène du théâtre Nénéka, avec quelques comédiens. Lorsqu'ils avaient joué précédemment, ils étaient hier à la salle Nadal et Loujani à Corté. Et ce soir, ils seront au théâtre municipal de Bastia. Pour nous parler de cette pièce, je reçois à nouveau François Orsogne avec le comédien Jean-Louis Coulocq. Avant de vous saluer et de parler de cette pièce, La mort de Danton, je peux vous dire bonjour quand même, on a le droit. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Nous allons
bonjour.
Faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe chez nous. Dans l'agenda d'RCFM du théâtre avec La mort de Danton, une pièce de Georges Büchner qui vous est proposée par le théâtre de Nénéka, le metteur en scène François Orsogne, il nous parle de la naissance de ce projet. Longtemps, je ne me suis pas senti français. La mort de Danton me fascine par ce retour qu'elle permet sur l'histoire de notre République, tel un récit des origines, bien plus qu'à une simple interprétation. Pour la distribution, Brice Borg, Jean-Louis Coulocq, Mathieu Genet, Yannick Landrin, Jenna Thiam. Rendez-vous au Théâtre Municipal de Bastia ce soir à 20h30. Du côté de l'Albor, au Centre Culturel de Loupine, la projection d'un film en avant-première, Tamanta Strade, organisé par France 3 Corse via STEL, le 13 décembre 2015, l'Union des Nationalistes a permis de gagner les élections territoriales. Tamanta Strade, dans ce documentaire, acteur et observateur de ce changement, reviennent sur ces journées décisives de décembre 2015 et sur une année d'exercice des responsabilités politiques. Ce documentaire sera également projeté demain à l'Ellipse à Ajaccio et sera en diffusion sur France 3 Corse via STEL le 9 décembre. Une signature ce mercredi à 15h30 à la librairie Papi à Bastia. Jean-Raphaël Tchervogne signe Chronique de la Corse ancienne, tome 2, chez Clémentine Éditions. Cet ouvrage fait suite au premier tome, avec encore de nombreuses histoires de notre passé, de toutes les époques. On finit avec le conservatoire Henri Thomasi qui vous propose ses spectacles de Noël. Aujourd'hui, rendez-vous en l'église Sacré-Cœur à côté du collège Giraud à 18h30 pour un concert d'orgue, de harpe et de violon. Et dans les anciens locaux d'RCFM rue Favalelli, vous entendrez un concert du département Vent, c'est aussi à 18h30. Merci pour votre attention et à très vite. La mort de Danton, de Georges Büchner, c'est ce soir au Théâtre Municipal de Bastia avec le Théâtre de Nénéka et un dispositif sur le plateau, ce qui signifie que la jauge est de 160 personnes. Et donc, je viens d'apprendre qu'il va être délicat de pouvoir venir vous voir si on ne s'y est pas pris un petit peu à l'avance.
Je crois, oui.
C'est complet.
Oui, mais il y a toujours des listes d'attente, à mon avis. Il y a toujours des gens qui ne viennent pas, donc je pense que pour les gens qui ont vraiment envie de venir...
On peut tenter le coup. Vous rejouerez quand et où ?
On rejouera au Théâtre de la Bastille, à Paris, à partir du 20 février, pour 2 semaines.
C'est une histoire d'amour avec le Théâtre de la Bastille.
Bah oui, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de monter La mort de Danton.
Ça y va bien, mais vous jouez souvent
au Théâtre de la Bastille. C'est un théâtre très fidèle avec lequel on travaille depuis longtemps et qui nous a permis d'avoir, je dirais, un petit éclairage au plan national qui nous aide bien à nous diffuser et à exister en dehors de la Corse.
Alors François Orsogne, deux choses assez ludiques. La première, c'est que vous nous emmenez Robespierre.
Oui.
Avec Jean-Louis Coulocq.
Mais je vous avais emmené Danton la dernière fois, donc c'est pour équilibrer.
Non, mais c'est normal qu'on puisse prendre parti à un moment donné. Et puis l'autre chose rigolote, c'est qu'avec cette pièce et ce texte de Georges Büchner, vous avez appris ou compris ou réalisé ou intégré que vous étiez français aussi.
Ah. Non, j'ai pas intégré ou compris, mais je dirais que ça a été une manière de revisiter l'histoire de la France contemporaine et qui est une période de l'histoire sur laquelle on a beaucoup d'images d'Épinal, comme ça, la Révolution, c'est enfin, vous voyez, on a de la couleur, des formes, des tableaux, un certain nombre de choses. Et puis, le fait de travailler cette œuvre, ça m'a permis de lire beaucoup déjà. Il y a une quantité de bouquins sur ce sujet qui est absolument incroyable. Et puis, c'est un débat qui n'est pas clos. en ce sens que le traitement que l'on peut faire de la Révolution est totalement multiple, et je crois que cette espèce de dichotomie qu'il y a entre la liberté et l'égalité, et on peut, enfin, d'une manière un peu simpliste, dire qu'il y a un mouvement de gauche qui est social et sur l'égalité, un mouvement de droite qui est plus libéral. C'est une dichotomie qui est présente dans la Révolution et qui est encore présente dans notre société aujourd'hui.
Donc nous sommes, allez, pour être une nouvelle fois simpliste, les enfants de la Révolution, et il faudrait quand même connaître cette période pour mieux comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Ça,
oui, enfin, c'est intéressant d'aller re-questionner d'où l'on vient, pas pour répéter cela.
Mais
comme...
c'est pas hyper bien enseigné quand même la période de la Révolution.
Je sais, je connais plus trop les programmes scolaires.
Moi, j'ai souvenir que je n'avais quasiment rien compris, quoi.
Moi non plus.
Le peuple d'un côté. Non, mais franchement, c'est pas hyper bien enseigné. Alors, c'est vrai que c'est pas simple. Mais déjà, il faut comprendre cette pièce. Elle est pas mal parce qu'on comprend qu'il y a les pros Danton, les pros Robespierre, et puis il y a le peuple qui comprend pas vraiment l'évolution de cette révolution. C'est dès le premier acte chez Büchner.
Oui, mais c'est pas que les pros Danton, les pros Robespierre, c'est toute une équipe de jeunes gens qui s'opposent. Danton est l'emblème d'un mouvement, Robespierre l'emblème d'un autre. Mais tous sont des emblèmes, en fait. Camille Desmoulins, c'en est une aussi. Saint-Just, très important. Et les autres, plus moins connus, mais tout aussi importants.
Ceux qui, malgré eux, sont engagés aussi dans cette révolution.
Oui, enfin après, c'est un engrenage. On ne peut pas éviter le destin une fois qu'il est enclenché, quoi.
Quelle voix, ce Jean-Louis Coulloc. Vous ne voudriez pas venir à la radio? Je suis complètement là évanouie sous le charme. Vous allez me préparer un petit texte, je vous en conjure. Après un disque, le temps d'y réfléchir et que je puisse vous convaincre, juste qu'on entende un peu la langue de Büchner, ce serait sympathique. Il y a l'histoire d'amour aussi. Il y a la dévotion qui ira jusqu'à la mort.
Des femmes?
Oui.
Oui. Bah oui, on peut pas raconter une histoire sans histoire d'amour. Enfin, ce serait bien triste. Et puis, Büchner est un auteur allemand romantique. Donc, il y a une espèce de romantisme aussi et d'utopie comme ça qui traverse cette pièce. Et finalement, un conflit entre des idéaux et une réalité aussi, cette période et le traitement qu'en donne Büchner. Il y a des discours qui sont sublimes dans ce texte. Quand on a répété, quel que soit, comme le dit Jean-Louis, quels que soient les protagonistes qui parlent, on est séduit par chacune des paroles. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui vient contredire cette parole par une autre parole qui est tout aussi belle. Et voilà, et c'est dans la vie politique, c'est un peu comme ça. On peut écouter quelqu'un et puis se dire, ah, tiens, oui, c'est vrai, c'est intéressant ce qu'il dit. Et puis, quand on y réfléchit un peu mieux, on se rend compte que finalement, les conséquences de ce discours peuvent être dramatiques. Et puis après, on écoutait un autre, et puis c'est un peu le dernier.
C'est le dernier qui a raison,
mais on se laisse séduire par la parole. La parole et le discours politique a cette force-là, c'est qu'il peut être très séduisant. Donc il embarque des gens, et voilà. Et cette révolution, c'est un grand shaker dans lequel se confrontent beaucoup de choses. Il y a quand même de grandes réussites dans cette révolution, c'est que l'objectif était quand même de partager le pouvoir avec le peuple et que la noblesse n'ait pas les pleins pouvoirs, et ça c'est quelque chose qui a été fait.
Il y avait une ça a fonctionné.
Voilà, ouais. La réforme agraire aussi. Mmh. Et puis ensuite, des tas de choses qui ont été évoquées pendant la Révolution ont mis des dizaines d'années pour arriver à aboutir, mais elles restent référentielles dans le monde aujourd'hui, donc c'est un moment assez historique, effectivement.
Alors un mot quand même, même plusieurs, sur Georges Büchner. Vous l'avez dit, c'est un auteur allemand, c'est un auteur du 19e siècle, romantique, médecin, scientifique, il est mort très jeune, du coup son œuvre n'est pas très importante. Pourquoi il s'intéresse à cette histoire-là de la Révolution?
Je pense que lui est un jeune idéaliste de 22 ans. Je crois que la période est très troublée en Allemagne au moment où il écrit ce texte. Et donc, c'est une scène, un sain questionnement quand on a 22 ans de se poser des questions sur la liberté, sur le pouvoir, sur qui a le pouvoir, sur comment le partager. Bon, il y a une utopie dans la Révolution, enfin une utopie en tous les cas, une chose qui devient très compliquée, c'est qu'à partir du moment où le roi est tué, qui va exercer le pouvoir ? Et la crainte, c'est que il y ait une nouvelle tyrannie qui ressurgisse. Donc on crée ce fameux comité de salut public, qui sont 10 personnes qui se partagent le pouvoir. Comme le dit Jean-Louis, ce sont des gens qui ont entre 25 et 30 ans, et dont la plupart ne sont pas des hommes politiques 2 ans avant. Il y a des auteurs, des comédiens, des metteurs en scène, des avocats. C'est vraiment la société civile qui est représentée.
Alors qu'il s'y intéresse, c'est sain, puisque c'est un homme, un scientifique, mais un homme de lettres. Et on l'a dit, un auteur formidable. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que, quelque part, c'est pas chez lui ?
Ah oui.
À côté de chez lui, et il peut se permettre d'en parler pour parler de ses contemporains, de ce qui se passe chez lui.
C'est sûr que c'est une thématique, même le film Danton de Vajda, c'est souvent des étrangers qui parlent de la Révolution française, parce que justement, quelqu'un qui est français, si vous voulez, dans une espèce de... il prend parti pour un mouvement plutôt qu'un autre. Et l'analyse qu'en fait Danton, peut-être justement, est très sincère, parce que il a cette distanciation qui lui fait aimer tous les personnages de la Révolution.
Comment vous l'incarnez, ce Robespierre ?
Moi, je dirais qu'il n'y a pas véritablement d'incarnation. C'est juste respecter les intentions du texte et de François. Et parce qu'on a essayé d'éviter justement une incarnation, parce que ce serait autre chose. On était plus dans une théâtralité littéraire et théâtrale aussi, parce que la théâtralité n'enlève pas l'incarnation, n'enlève pas la théâtralité, vice versa. Et on était plus dans les intentions du texte.
Est-ce que c'est dû, au processus de travail, d'avoir fait des lectures ?
Oui, on a fait beaucoup de lectures, on a lu énormément autour du texte, donc des textes sur la Révolution, et ça nous a beaucoup, les textes de Michelet par exemple, et d'autres aussi, mais ça a été très important de faire ces lectures pour aborder le texte. Du coup, après, nous ne sentions pas l'obligation d'interpréter tel qu'on l'entend aujourd'hui, le texte avec des incarnations de personnages, comme au cinéma ou comme ça. Mais c'est plus...
C'est-à-dire se coller au plus près de la personnalité de cet homme historique. Et là, c'est différent,
oui,
c'est autre chose.
Ouais. Avec une écoute de ce qui se dit quand on ne dit rien et vice-versa. Et d'être vraiment très à l'écoute du texte et de nous-mêmes. Donc pour que le public aussi entende ce qui se dit et pas ce qui se joue forcément. C'est le texte qui prime. Il y a pratiquement rien à faire que de dire correctement ce texte.
C'est hyper dur, de ne rien faire avec son corps et d'être dans la retenue et dans le poids des mots. Je le dis pour les auditeurs, c'est pas quelque chose d'évident. Pour moi, ce serait une torture.
C'est notre quête. Et puis, moi, pour rebondir sur ce que dit Jean-Louis, c'est que c'est vrai que pour eux, dès qu'on a commencé à travailler, il y a une question qui s'est posée, c'est que ce sont pas des personnages de théâtre qui sortent de l'imagination d'un auteur, mais ce sont des personnages qui ont existé dans l'histoire. Donc c'est vrai que l'idée de l'incarnation, vous voyez, on a des images, on dit mais Danton il est comme ça, et puis Robespierre il est comme ça, enfin chacun a la sienne. Et donc pour nous, on a essayé de faire de se débarrasser de tous ces oripeaux pour juste être entre nous et de dire ces mots aujourd'hui comme des hommes politiques pourraient les dire
tout
aujourd'hui.
Tout de même, il y a le costume.
Il y en a un peu, on signifie des petites choses, on emmène, vous voyez,
on esquisse
des choses comme un beau fusain ou comme une sanguine d'un peintre, où on met pas toutes les couleurs et puis c'est au spectateur de poser son imaginaire dessus. En tous les cas, c'est ça la tentative.
Dans quelques minutes, nous aurons peut-être la chance
d'entendre.
Mais ça n'est pas sûr. Suspense.
marido, ao respondo, sou de um tadite, imoviade, imoverani, se tu. Passavi tempo vila, da tanti stalvati e stagioni, mi ne torno odi ai magantoni, i morigordi so centomila, so di un tadino.
Sur RCFM, 11h50, nous parlons de La mort de Danton, pièce de Georges Büchner, avec le théâtre de Nénéka, donné ce soir au théâtre municipal de Bastia. Vous serez sur scène, le public, avec les comédiens, très proches d'eux, pour cette jauge de 160 places. Tentez le coup, parce que, évidemment, certaines et certains s'y sont pris à l'avance, mais on peut toujours tenter sa chance le soir même, évidemment, donc tout à l'heure, à 20h, tenter le coup. Un extrait donc de cette mort de Danton avec Robespierre que joue Jean-Louis Coulloc et un extrait d'un des monologues.
Ouais, c'est une partie où, c'est juste après sa rencontre avec Danton et Saint-Just et il se retrouve tout seul. Donc il se pose beaucoup de questions. Voilà. Mais si sanguinaire qui sacrifie et n'est pas sacrifié. Il les a rachetés avec son sang, et moi je les rachète avec le leur. Il avait la volupté de la douleur, et moi j'ai la torture du bourreau. Qui a témoigné la plus grande abnégation de soi-même, lui ou moi? Il y a de la folie dans cette pensée. Pourquoi songeons-nous toujours à lui? À vrai dire, le Fils de l'homme est crucifié en nous tous. Nous agonisons tous au jardin de Gethsémani, baignés d'une sueur de sang, mais nul ne peut racheter les autres par ses propres blessures. Mon Camille.
C'est formidable. Ça va être magnifique ce soir, entre autres grâce à Jean-Louis Coulloc, qui n'est pas seul sur scène. On va parler des autres quand même, on n'a pas dit un mot.
Oui, il y a un petit changement par contre de distribution. Alors, il y a Jean-Louis Coulloc qui est en face de vous.
Il va rester.
Il va rester. Mathieu Genet qui joue Danton. Jenna Thiam qui incarne un peu toute la féminité de la pièce. Brice Borg et Alban Guyon, un comédien avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui remplace Yannick Landrin.
Tous jouent d'autres petits rôles, c'est votre cas, Jean-Louis ?
Oui, oui. Ben, on est tous, c'est ça, il n'y a pas un rôle plus que l'autre,
ouais.
C'est vraiment une circulation entre cinq comédiens, plus un musicien, plus l'équipe technique aussi, mais c'est vraiment une espèce de travail d'équipe, parce que si on a un qui se détache des autres, c'est pas possible. Donc c'est vraiment une partition à cinq, c'est vraiment un quintet, quoi.
Mmh.
Donc c'est vraiment presque, c'est assez musical en fait, c'est comme un orchestre.
Comment vous les avez réunis et pourquoi ? C'est toujours une chimie assez difficile.
Oui, alors c'est vraiment ce texte de Büchner, ça fait longtemps que je le lis, que je l'ai dans ma bibliothèque et que je souhaitais le monter. Et je ne sais pourquoi, j'ai rencontré Jean-Louis en faisant une espèce de formation de cinéma, de travail devant la caméra de l'acteur. Et peu de temps après, j'ai repensé à la mort de Danton et je voulais réunir Jean-Louis et Mathieu Genet qui jouent Danton pour monter cette pièce. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment très mystérieux. Et cette idée est restée en moi pendant assez longtemps.
Et vous connaissiez ou pas du tout
Les autres comédiens ?
Oui.
Non.
Non. Et du coup, j'ai fait un déjeuner avec l'un, j'ai fait un déjeuner avec l'autre, et puis j'aurais dit, mais est-ce que vous avez du temps, là, le mois prochain, pour faire une lecture de la mort de Danton, parce que j'organise un cycle de lecture à la bibliothèque d'Ajaccio. Ils ont dit oui, et puis j'ai trouvé trois autres interprètes autour pour avoir, voilà, un petit quintet comme ça, pour raconter cette histoire où il y a 27 personnages, donc en jouant sur l'incarnation, comme le disait Jean-Louis, où on saute d'un personnage à un autre. Et c'était la rencontre de ces deux personnes et vraiment la colonne vertébrale de ce récit.
Et ça a fonctionné.
Bah ça c'est pas
tout de suite.
Ah oui, dans le travail,
ouais,
oui, entre
travail.
Nous c'était vraiment ça a été une création très harmonieuse.
Allez, outre la mort de Danton que vous jouerez encore et encore, je vous le souhaite. Vos projets, Jean-Louis Coulloc.
Ben, j'en ai pas véritablement.
C'est pas vrai.
Il a pas envie d'en parler.
Je continue des travaux que je fais avec des copains.
Ouais.
Je tourne un peu au cinéma et puis je fais pas mal de radio aussi sur
France Culture.
C'est étonnant.
C'est étonnant.
Et en ce moment d'ailleurs sur des séries policières radiophoniques et ça me passionne aussi.
Qu'on peut entendre à quelle heure et.
Alors ça, j'ai pas les programmes.
Aïe, 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 ça s'appelle comment ?
C'est une pièce radiophonique montée par un jeune homme, là, Benjamin Habitant, qui fait une très belle création radiophonique. Et donc il y a toute une bande là de jeunes gens, filles et garçons, qui font des trucs pas mal.
C'est notre rêve avec François Orsogne, un jour.
Oui.
Nous y arriverons peut-être.
Faire des fictions sur RCFM.
On en rêve, pourquoi pas. Et vous alors, François Orsogne ?
Moi, on va finir La mort de Danton. Ça a été quand même un gros...
Gros morceau.
Un gros morceau. Et puis cette année, on est en immersion dans un collège en Seine-Saint-Denis. Pour travailler avec des jeunes élèves sur la création d'un nouveau spectacle jeune public, pour faire, pas une suite, mais pour continuer à faire du jeune public comme nous l'avions fait avec Les Contes Chinois, qui est une expérience qui nous avait beaucoup plu. Et puis, j'espère pouvoir continuer à faire des cycles de lecture à la bibliothèque d'Ajaccio et continuer, voilà, à faire entendre de la littérature sur notre île.
Ça reprendra certainement.
J'espère que la saison prochaine, on refera un cycle, oui. Mmh. En tous les cas, je œuvrerai pour ça.
Merci beaucoup, François Orsogne et Jean-Louis Coulloc, d'être venus nous voir pour nous parler de La mort de Danton de Georges Büchner par le théâtre Nénéka. C'est ce soir au théâtre municipal de Bastia à 20h30.